Alors, c'est vrai que je me suis demandé ce matin pourquoi Jean m'avait invité à venir prêcher, puisque en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez vraiment en vous déjà pas mal de ressources et vous pouvez vous exhorter les uns les autres. Et malgré tout, quand tu as appelé, j'étais très surpris. Enfin, je vous explique quand même, parce qu'à ce moment-là, je me demandais mais comment je vais arriver à faire tout ce que j'ai à faire déjà, puisqu'effectivement, notre église s'est réorganisée. On avait à cœur de maintenir un lien en présentiel. Et du coup, au lieu de faire uniquement un groupe en local, donc dans les locaux de l'église, et un groupe sur Zoom ou en vidéo, on s'est répartis en quatre groupes géographiques. Mais du coup, il faut animer ces groupes. Enfin, faut qu'il y ait un responsable. Donc chaque fois, il faut préparer le message. Il n'y a pas simplement une personne qui s'en charge, mais c'est chaque responsable de groupe. Donc ça demande pas mal de temps, d'énergie, mais après je me suis un peu calmé. Je me suis rendu compte que dans le groupe, les gens étaient aussi compétents pour partager, apporter ce qu'ils avaient à apporter, et finalement ça se passe bien. Donc voilà, on a fait ces groupes en présentiel dans les maisons où c'était possible de se réunir en respectant dans la mesure du possible, les consignes, c'est-à-dire avec le masque, en ayant deux places entre chaque personne et en essayant de mettre de la distance entre nous. C'est ce que, voilà, on a, je pense, été sur la marge, mais quand même en essayant de faire comme si on était à l'église. Bon, du coup, il n'y a que quelques familles qui peuvent accueillir, puisque tout le monde n'a pas assez d'espace pour le faire. Voilà, par la grâce de Dieu, pour l'instant, ça a fonctionné. Là, actuellement, vu le confinement, ben, on est à nouveau dans les locaux de l'église. On peut plus le faire dans les familles. Du coup, eh bien, ce matin, aujourd'hui, je n'ai pas abandonné, Jean, rassure-toi, l'église. Mais on va avoir le culte à 15h. Donc, à 17h, pardon, en ce qui nous concerne. Donc, on sera à 17h dans nos locaux. Et il y a en ce moment un culte en présentiel à 10h, enfin, qui a démarré à 10h. Il y en aura un à 15h et un à 17h. Voilà comment on s'organise pendant la période de confinement plus stricte, et sinon, ben, c'est dans les familles. Voilà en ce qui nous concerne, mais bon, le Seigneur est bon, il permet que comme ça on se connaisse un peu mieux. Du coup, ces groupes nous ont permis d'avoir des relations plus profondes, en fait. Hein, tout comme vous venez de partager ensemble, là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on apporte ce qu'on a sur le cœur. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. On s'est rendu compte que souvent, à la fin du culte, on se disait au revoir, on échangeait deux, trois nouvelles, mais on n'avait pas beaucoup de liens en semaine. Et on se rend compte, là, le fait de mieux se connaître, ça nous donne aussi envie de prendre des nouvelles dans la semaine ou de s'entraider. Mais bon, c'est la grâce de Dieu qui permet un confinement pour nous faire réagir et pas rester dans une routine. Je pense que Dieu nous a tous bousculés. Alors du coup, quand Jean m'a demandé, ben, il a dû dire silence radio, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû dire un truc qu'il fallait pas, parce que t'as pas eu de réponse bien rapidement. C'est parce que vraiment je me demandais comment je pourrais trouver le temps. Et j'avais mis une condition à Jean, je veux bien venir, mais à condition de pas avoir à repréparer un message. Du coup, je vais vous donner un message que j'ai déjà préparé. Et j'ai quand même dit à Jean quel était le sujet avant de pouvoir de venir. Et le sujet, puisqu'on est dans les proverbes, on vient de terminer une série sur les proverbes, c'est les conflits et les querelles selon les proverbes ou à travers les proverbes. Donc c'est le sujet que je vous propose de partager maintenant. Et on entend souvent ce genre de discussion entre parents, hein, quand on se retrouve et on se dit alors les enfants, ça va, ils s'entendent bien. Et on a toujours, souvent en tout cas, cette réponse, oh bah, il y a bien des disputes, mais pas bien grave, c'est normal entre frères et sœurs. C'est comme ça dans toutes les familles. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est si normal? Est-ce qu'on doit l'accepter? Et dans la famille de Dieu, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est le même problème? Alors je vous propose qu'on lise dans les Proverbes, Proverbes 6, 16. Il nous est dit ceci. Peut-être, je vais pas aller chercher, parce qu'on va faire beaucoup d'allées et venues, donc je vais pas aller chercher dans ma Bible, mais si vous voulez, vous pouvez vérifier, je les ai imprimées. Proverbe 6, 16, il y a six choses que l'Éternel déteste, et même sept, je vis dans la version en semeur, et même sept qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et on se dit, bah oui, toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses graves. Et puis, la septième chose, c'est l'homme qui sème la discorde entre des frères. Et là, je me dis, tiens, aux yeux de Dieu, c'est au même niveau que de répandre le sang des innocents. Donc, c'est quelque chose que Dieu voit comme très grave. Je vous propose de considérer quelques situations conflictuelles dans la Bible et de les placer sous ce projecteur des proverbes pour nous instruire et ne plus risquer d'offenser Dieu, puisqu'il nous dit qu'à ses yeux, c'est très grave et qu'il le déteste. Je crois que j'ai la responsabilité de la zapette. Donc, hop, voilà. Donc, je vous propose de renoncer à notre orgueil et de nous faire serviteurs en obéissant à ce que le Seigneur Jésus a conseillé à ses disciples. Et pour voir ce point-là, je vous propose de lire dans Luc, au chapitre 22, au verset 24. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Dans les évangiles, on ne voit pas que les disciples se disputent. Habituellement, ils font les choses ensemble, ils sont plutôt unis. Mais là, il y a un sujet de discorde. Et ce sujet de discorde, c'est de savoir qui parmi eux est le plus grand. Ils se disputent. Déjà, la mère de Jacques et de Jean avait essayé de placer ses deux fils au plus haut rang, à la droite et à la gauche de Jésus. Et à ce moment-là, les dix s'étaient quand même indignés. Cette fois, on ne sait pas qui veut ces places-là, mais ça semble bien chauffer dans les discussions. Alors que Jésus vient tout juste de dire que l'un d'eux va les trahir en plein repas de Pâques, eh bien les voilà qui se divisent pour savoir qui est le plus grand. Qu'est-ce qui les pousse à de telles pensées? En fait, il y a une seule chose qui peut les pousser dans un moment si solennel à penser uniquement à eux et à leur place, c'est l'orgueil. L'orgueil, la volonté de dominer les autres, de se faire servir, l'appât des honneurs et du pouvoir. Jésus va le dénoncer clairement, puisqu'il va leur dire, vous savez, les grands de ce monde, eh bien, ils dominent durement leur peuple. Et ils se font appeler hypocritement bienfaiteurs, alors qu'ils les exploitent. En fait, les grands de ce monde, ils aiment être servis. Ils aiment se faire servir. Et vous, veillez à ce qu'il y a au fond de votre cœur en voulant être à la première place. C'est bien que vous souhaitiez être à ma droite ou à ma gauche. Mais pourquoi est-ce que vous disputez pour avoir cette place au soleil, hein? C'est terrible comme l'orgueil peut nous pousser à agir de façon tout à fait déconvenante devant Dieu. Proverbe 13:10 affirme « Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. » Alors, Jésus va leur donner des conseils et il les avertit. Et il leur dit en quelque sorte, ne vous y prenez pas comme les rois d'ici-bas, si vous voulez être grand dans le royaume des cieux. Si vous voulez être grand dans les royaumes des cieux, faites comme moi, servez les autres. Et alors, vous serez grand devant Dieu. Et finalement, voilà le remède à la plupart de nos querelles, de nos disputes, que ce soit dans l'église ou dans nos familles. L'antidote, ce serait de nous faire serviteurs des autres, de faire de l'humilité et de l'esprit de service notre idéal. Vous voyez ? Que ce soit vraiment notre idéal. Que ce soit ça qui soit glorieux à nos yeux. Alors nous serons acceptés les conseils, nos discussions ne partiront plus en vrille parce que nous aurons suffisamment de respect pour notre interlocuteur et on pourra accepter de se remettre en question. On pourra même écouter les conseils. Ça, c'est assez difficile. Encore tout récemment, on m'a dit, tu sais, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était un peu dur. J'avais l'impression d'avoir fait de mon mieux. Et voilà que non, il y a encore des remarques. Pas une critique, mais un conseil qui peut ressembler quand même à une critique. Ben, c'est pas très facile à accepter. Et ben, je vais essayer d'accepter, parce que si c'est pour mieux servir Dieu, il vaut mieux accepter. Je vais me remettre en question, et dès cet après-midi, voyez-vous. Donc, si on a cet idéal de servir des autres, alors on va pouvoir descendre un peu de notre trône, de notre piédestal, je ne sais pas où on s'est mis, pour écouter les conseils et les choses vont changer. Alors je suis en chemin, j'apprends, et ce que je vous partage, enfin ce que je vous apporte ce matin, c'est un partage, enfin c'est, je suis dans les mêmes sièges que vous, je ne suis pas sur le banc parce qu'il faut bien ici que je vous parle, mais on en est au même point je crois. Et simplement un instant, imaginons une famille où chacun cherche à servir de son mieux son conjoint, ses enfants, ses parents. Vous imaginez un peu l'ambiance ? Et en réalité, c'est possible grâce à Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de portée. On pourrait avoir une église qui ressemble à cette famille, une église où chaque membre est pour idéal le service de son prochain. N'est-ce pas une épouse splendide qu'on aimerait vraiment présenter à Christ ? Elle n'est-elle pas radieuse ? N'est-elle pas paisible ? Et qui ne serait pas attiré par une telle atmosphère de bienveillance ? C'est possible, grâce à Christ. Il faut vraiment le rechercher. Il nous faut pour cela résister au diable et nous humilier devant Dieu. Nous allons lire maintenant dans Jean, au chapitre 12 et au verset 1. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Il y a le passage parallèle qui est intéressant parce qu'il apporte des éléments complémentaires dans Matthieu 14, au verset 3. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux, « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la donc tranquille. » Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Alors on a dans les récits un qui est plus centré sur Judas, l'autre plus centré sur le groupe. Et d'un point de vue humain et comptable, on pourrait dire que Judas a trouvé un argument tout à fait recevable. C'est-à-dire que le produit de la vente de ce parfum aurait rapporté 300 pièces d'argent, c'est-à-dire un an de salaire d'un ouvrier agricole, ben ça permettait quand même d'aider pas mal de familles pauvres. Et avec ce type d'argument, Judas arrive à entraîner une partie des disciples. Et ainsi, il réussit à diviser les disciples. ceux qui admirent le geste de Marie d'un côté, et ceux qui sont prêts à lui faire des reproches cinglants, ils font des reproches à Marie, à tel point que Jésus va devoir sur le champ prendre la défense de Marie pour la rassurer sur le bienfait de son geste. Je pense que les compagnons de Judas, qui se sont laissés influencer, sont très loin de réaliser ce qui se passait. Et ils ont dû être déstabilisés par les propos de Jésus. Parce qu'en fait, Jean nous précise que Judas disait cela non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. En réalité, Judas, les pauvres, c'était pas son problème. La seule chose qui l'intéressait, c'était la caisse. Et l'appât des richesses le pousse non seulement à voler, mais encore à diviser les disciples, pour les pousser à demander que l'on collecte davantage pour les pauvres, mais afin d'en détourner aussi le maximum pour lui. Et on voit que Judas entraîne avec lui les disciples et qu'il les pousse à murmurer. Proverbe 28 nous avertit. Proverbe 28-25, « L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. » Proverbe 16-27, « Le vaurien mijote le mal, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et le rapporteur jette la brouille entre des amis, que ce soit pour la recherche du pouvoir. » Pardon, ça c'était le proverbe, maintenant c'est moi qui commente. « Que ce soit pour la recherche du pouvoir ou par convoitise des richesses, nous sommes prêts à déclencher des disputes et des querelles, quitte à rapporter des fautes ou à être médisants, comme Judas était médisant avec Marie. » Proverbe 18:6, « Quand l'insensé parle, il provoque des querelles, et ses discours lui attirent les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. » Marie a certainement été blessée au plus profond de son âme par les reproches qu'elle a entendus de la part de Judas et de ceux qui ont suivi Judas. Les médisances sont comme des friandises, et quand quelqu'un dit du mal de quelqu'un d'autre, ça va vraiment aller le blesser profondément. Et ça va être l'amorce d'une division. Les gens vont avoir du mal à aller les uns vers les autres. Donc il y avait aussi un risque pour Marie dans cette discussion. Avez-vous remarqué que la façon de faire de Judas est malheureusement répandue, trop répandue dans l'Église ? Des murmures commencent à se faire entendre à propos de tel ou tel enseignement, ou bien des critiques apparaissent au sujet de telle ou telle personne. On sait rarement d'où c'est parti. Mais le sujet va bon train, et il commence à opposer les membres entre eux. Des clans se forment. En général, l'objet de la discorde est très spirituel, tout à fait honorable, tout comme la cause des pauvres qui était défendue par Judas. Et les protagonistes peuvent passer pour sages, inspirés, tout comme Judas semble l'être. Cependant, là où le discernement fait défaut, c'est quant à la motivation d'un tel débat. Quelle est la motivation profonde des débats qui alimentent nos querelles ? Que recherche la personne qui a lancé cette discussion ? Quel est son souci ? Est-ce que c'est la gloire de Dieu ? Vraiment ? Ou bien sa propre gloire ? Chers amis, ce que j'ai pu observer depuis 40 ans, c'est à peu près le temps depuis que je suis chrétien, donc que je fréquente une église, c'est que ce que Jacques affirme, ça se confirme. Et c'est dans Jacques 4:1 que nous allons lire ce qu'il nous dit. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse entre vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie. Vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. C'est vraiment un problème grave. Si nous voulons fonctionner comme ce monde nous y pousse, en cherchant du pouvoir, en cherchant à satisfaire nos propres intérêts, que ce soit sur le plan matériel ou relationnel, nous allons être en opposition avec Dieu. Parce que Dieu veut qu'il en soit tout autrement dans l'Église. Et du coup, fatalement, cela va se traduire par des tensions, des disputes, voire des divisions avec ceux qui souhaitent obéir à Dieu. C'est dangereux, je trouve, de se faire ennemi de Dieu. N'oublions pas que Dieu a en horreur, il déteste l'homme qui sème la discorde entre les frères. Nous devons vraiment lutter contre notre hypocrisie, si habile à tromper même nos frères et sœurs. Parce que si nous pouvons tromper nos frères et sœurs, il y a quelqu'un que nous ne pourrons pas tromper, c'est notre Créateur, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est la tête de l'Église qui est son corps. C'est vraiment une lutte parce que le diable, on l'a vu, il a réussi à séduire Judas et il cherche qui il peut séduire encore. Proverbe 15, 3 nous dit « L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes, méchants et bons. » Je crois que s'il y avait une amorce de querelle, nous devrions toujours avoir peur de déclencher une querelle. Et on devrait vraiment... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter, mais c'est deux choses, discuter et entamer une discorde. Vous voyez les différences ? Enfin, je pense qu'il y en a une. Parce qu'on ne sait jamais où ça va nous entraîner. Proverbe 17, 14 dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. » Je ne sais pas si vous savez, les polders, vous voyez, il y a des grandes digues dans les pays du Nord, là-bas. C'est pour empêcher la mer de... Enfin, ils ont pris de la surface cultivable, habitable, sur la mer. Mais du coup, il y a des immenses digues. Mais ils les surveillent tout le temps, comme le lait sur le feu. Parce que la moindre petite fuite dans une de ces digues, eh bien, ça va commencer peut-être par un goutte à goutte, puis après, ça va être comme le petit doigt, puis le pouce, puis la main, puis après, ça part. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Quand on commence une discorde, on ne maîtrise plus rien. Je pense qu'il nous faut mettre un point d'honneur à nous éloigner des querelles. C'est Proverbe 20, verset 3 qui nous dit « Rester loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. » Et d'autant plus que parfois nous aurions tendance à aller dans une querelle, alors que pourtant nous ne sommes pas concernés. Et si on s'amuse à aller à intervenir dans une querelle ou à entrer dans la querelle alors que ça ne nous concerne pas, eh bien, Proverbe 26, 17 nous dit « Vous mêlez d'une querelle qui ne vous regarde pas, c'est comme attraper un chien par les oreilles. » Vous avez déjà essayé deux chiens qui se disputent, et puis vous les attrapez par les oreilles. Et moi, je vois souvent, régulièrement, des gens qui ont voulu séparer des chats. Je vous dirais que je m'approche même pas des chats qui se disputent, parce qu'ils se retournent contre vous, et c'est vous qui êtes blessé. Bon, les chats, entre eux, ils s'arrangent. Il y a des hiérarchies, mais il faut les laisser faire. Mais voilà, si vous voulez entrer dans une querelle, alors que vous n'êtes pas concerné, vous allez être blessé. Il faut les fuir. Il faut vraiment surtout pas commencer une querelle. L'apôtre Paul est on ne peut plus clair. Romains 16, au verset 17. « Je vous engage instamment, chers frères, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres, en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur ventre. » On revient à ce qu'on disait au début. « Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. » Et c'est là la difficulté, c'est d'arriver à discerner où est l'erreur, où est le mal, quelle est la motivation derrière cette discussion qui semble si spirituelle. La préoccupation de ces personnes, là c'est moi qui parle, la préoccupation de ces personnes n'est pas réellement la doctrine, contrairement à leurs prétentions, mais leurs propres intérêts. Humilions-nous devant Dieu pour cette promptitude que nous avons à tout ramener à nous-mêmes et même nos intérêts, à mettre nos intérêts en priorité. Et je dois confesser que moi-même, dans des discussions que j'ai eues avec des anciens, avec d'autres membres de l'Église, ou même des fois quand on discute dans la rue, je n'ai pas toujours cette préoccupation-là, et parfois c'est quand même par orgueil que je vais argumenter dans tel ou tel sens, et je dois toujours revenir à cette difficulté que j'ai à ne pas entrer dans une dispute, mais chercher vraiment à glorifier Dieu. Revenons à Jacques. Jacques, au chapitre 4 et au verset 6, il continue ainsi. Voici donc ce que déclare l'Écriture, donc Jacques 4, 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. C'est bien le diable qui nous pousse dans le mauvais sens. Judas aurait pu se soumettre à Jésus. Il aurait pu s'abaisser et Jésus l'aurait relevé. Parce que Proverbe 28, au verset 13, affirme « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » On peut toujours revenir à Dieu et s'humilier, et il nous fera miséricorde. Judas a eu à cet instant précis où cette femme vient offrir le parfum, il aurait pu être touché. Il avait l'occasion d'avouer sa faute à Jésus, de lui demander d'être libéré de son esclavage, de l'amour de l'argent. Mais au lieu de cela, voyant ses 300 pièces d'argent lui passer sous le nez, eh bien il va en chercher 30, 30 promises par les religieux pour la trahison de Jésus. En fait, il a préféré suivre le diable. Jean, au chapitre 13, verset 2, nous dit « Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. » Quel drame! Est-ce que dans l'Église, nous pouvons céder au diable, préférer ce que le diable nous propose à ce que Dieu nous propose? Je trouve à peine concevable qu'un homme qui a vécu 3 ans avec Dieu puisse encore faire ce choix. Mais je me dis que malgré mes 40 ans de vie chrétienne, je peux encore être tenté. Et que Dieu me garde. Dieu veut que nous ne laissions aucune place au diable dans l'Église. Proverbe 26, 20. Quand il n'y a plus de bois, qu'est-ce qui se passe dans la cheminée? Le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateur, qu'est-ce qui se passe? La querelle s'apaise. Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu et l'homme querelleur attise la querelle. Si bien que Proverbe 22:10 nous dit « Chasse le moqueur et la discorde prendra fin, les contestations et les insultes cesseront. » Paul va jusqu'à recommander à Tite 3, verset 10, « Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois. » On ne lui tombe pas dessus à bras raccourcis, on l'avertit. Une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. Car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin. Il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. Il ne s'agit pas d'agir à la hâte. Il faut avertir, mais malheureusement, l'esprit querelleur est très contagieux. Je pense qu'il est plus contagieux que le coronavirus version variant, tout ce que vous voulez. Il y en aura encore d'autres sûrement. Non, cette maladie-là est très contagieuse et on est obligé d'isoler la personne. Si quelqu'un en est atteint et qu'il ne se laisse pas corriger, nous devons l'isoler, soit en le fuyant, soit en l'excluant. Et c'est entre autres le rôle des bergers, des anciens. Tout ce que nous voyons ici est vrai dans l'Église, mais je pense que c'est vrai aussi dans le cercle familial et amical, dans le monde du travail. Il y a bien des équipes professionnelles qui sont en souffrance parce que le manager n'a pas su faire ce genre de discipline. Il n'a pas su faire le ménage. Et bien des familles se divisent parce que l'autorité parentale, en particulier paternelle, j'imagine, c'est quand même lui le chef de la famille, et bien ça ne s'est pas exercé sur ce point-là. En fait, les querelles, les divisions, c'est tellement dur à vivre que Proverbe 17, au verset 1, nous dit « Mieux vaut n'avoir qu'un croûton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup en se querellant. » Et c'est vrai que l'Église, c'est comme une famille. Si l'ambiance est trop lourde à cause de ces disputes, eh bien certains préfèrent rester chez eux, quitte à s'appauvrir, en quelque sorte, puisque il y a une richesse à ce matin regarder tout ce qu'on a partagé, les chants, les passages bibliques, les témoignages. C'est une richesse. Quand on est seul chez soi, on ne l'a pas. On est appauvri. Mais si, pour avoir cette communion théorique, il y a tellement de disputes, tellement de querelles, un poids tellement lourd, on sent qu'il y a des clans, parfois on s'éloigne, on préfère aller ailleurs parce que c'est trop dur à vivre, c'est trop pénible. Et du coup, eh bien, moi je trouve que c'est grave parce que il y a des gens qui vont rester sur le bas-côté de la route et il y a des gens qui vont être isolés. Mais c'est bien ce que cherche l'ennemi, hein, en créant les divisions et les querelles, hein, c'est vraiment ce qu'il cherche. Et je pense que l'ennemi sait aussi que s'il arrive à nous diviser, ça va être très difficile de revenir. Proverbe 18-19 dit « Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. » Malheureusement, les tensions sont parfois aussi entretenues par le fait qu'on rappelle des fautes. Proverbe 17-9 « Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne un ami. » Et là, c'est vrai qu'on est assez doué pour ça. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une petite liste des fois. Si l'ennemi a réussi à stimuler ma colère contre quelqu'un, vroom, vous savez, les menus déroulants, là, zoom, il y a une liste qui sort. Ah oui, c'était en quelle année? Moi, je ne retiens pas les années, mais en tout cas, je me souviens de ce qu'on m'a fait. Et c'est dommage, j'aimerais avoir... Vous savez, on peut effacer, comment on appelle déjà un disque dur quand on nettoie? On peut le formater, voilà, merci. Bon, j'aimerais pouvoir formater et que tout soit effacé, mais j'y arrive pas. Alors, je prie que le Seigneur m'aide à bloquer, je sais pas, à faire en sorte qu'il y ait un truc qui revienne pas, mais on est très doué pour rappeler les fautes ou pour s'en souvenir et nourrir une querelle. Alors, est-ce que tout est perdu sans espoir quand nous sommes querellés ou disputés? Franchement, c'est sombre, hein, ce qu'on vient de voir là. C'est pas... Vous aviez peut-être pas envie d'entendre ça ce matin, mais c'est ce qu'on a partagé, c'est ce que j'ai partagé. Et il y a quand même un espoir. Proverbe 10, 12. La haine allume les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Si les querelles sont amorcées par la haine, l'amour les désamorce et je crois qu'il peut même les éteindre. Recherchons la sagesse d'en haut, dans ce but-là. Jacques écrit aux alentours des années 40, donc au tout début de l'Église, et il s'adresse donc à des Juifs qui sont devenus chrétiens. D'accord ? Donc vous imaginez une église faite que de juifs, devenus chrétiens, et quand on voit les débats qu'il y a eu entre les pharisiens et Jésus, ou entre Jésus et les autres disciples, vous imaginez un peu les discussions qu'il devait y avoir sur le plan théologique, sur le plan pratique, entre ce qu'on peut manger et pas manger, la fête on la fait, on la fait pas, on respecte ou on respecte plus la nouvelle lune, le sabbat c'est le dimanche, c'est le samedi, c'est con. Vous imaginez un peu. Donc il devait y avoir des discussions passionnées. Et je crois que c'était normal. Les discussions sont normales. et même souhaitable, sinon ça peut être uniquement théorique. Mais bref, visiblement, dans cette période-là où Jacques écrit, mais il n'y avait quand même pas que des personnes désireuses de mieux comprendre la pensée de Dieu. Il y avait aussi des querelleurs, vu ce qu'on vient d'entendre, enfin de lire. Des personnes qui provoquaient des disputes. Bien entendu, ils le faisaient au nom de Dieu pour défendre sa parole et se croyaient très spirituels, très sages. Et Jacques va opposer deux types de sagesse. Jacques 3, 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amères jalousies, s'il est animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses propres ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habitent le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment la paix, pardon, sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Jacques est tranchant, n'est-ce pas? Si votre cœur est plein d'une amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, vous n'êtes pas sage aux yeux de Dieu, mais tout simplement dominé par votre péché, comme Judas l'a aussi été. En revanche, il y a une autre voie, celle que nous on a appelée dame sagesse, enfin, parce que enfin, c'est pas nous hein, d'ailleurs, c'est les proverbes qui commencent par cette opposition entre une femme folle et une femme sage, enfin la sagesse personnifiée en une femme. Donc on l'appelait dame sagesse dans nos différents messages, hein, réflexions. Donc cette dame sagesse, la vraie, celle qui vient d'en haut et qui est déversée par le Saint-Esprit. La sagesse qui vient d'en haut, elle est premièrement pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti et sans hypocrisie. Je répète parce que ça doit être ça notre idéal, hein, dont on parlait tout à l'heure. Elle est pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché et il n'y a pas de mélange, hein, c'est parfaitement pur. Elle aime la paix, c'est-à-dire elle recherche la paix et elle va la préserver en refusant tout conflit inutile. Elle va être, enfin, tout conflit, tout court, hein, enfin, plutôt comme ça. Elle est modérée et conciliante. Elle ne s'emporte pas. Elle écoute l'autre. Elle accepte un point de vue différent. Elle est pleine de bonté. C'est-à-dire qu'elle recherche le bien de l'autre. Elle est pleine de bons fruits. Le résultat de son action est conforme à la volonté de Dieu. Dieu peut dire, c'est bon. Elle est sans parti pris. C'est-à-dire qu'elle est impartiale, elle écoute chacun avec la même attention et avec bienveillance. Elle est sans hypocrisie, il n'y a pas d'arrière-pensée, pas de mobile caché. Oh, vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur déverse en nous son esprit, que cette sagesse caractérise nos relations et qu'ainsi non seulement on évite les querelles, mais que plus encore, on marche vers la réconciliation. Car ceux qui travaillent, parce que, remarquez comment on a terminé notre passage, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Et la réconciliation, c'est vraiment quelque chose que l'on doit rechercher. On doit éviter la querelle, mais si elle a eu lieu, on doit rechercher la réconciliation. Si nous avons fait du tort, ne nous laissons pas en repos avant de l'avoir réparé. C'est pas la personne blessée qui va venir. On est invité, hein, si on vient prendre la Sainte-Seine, mais qu'avant on se souvient que quelqu'un a quelque chose contre nous, on va d'abord voir ce frère, hein, ou cette sœur. Mais si on tient compte de notre tempérament, de notre façon de faire, la personne blessée, elle va avoir du mal à revenir. Mais si j'ai fait du tort, alors, regardez ce que nous dit Proverbe 14,9. Réparer un tort, les insensés s'en moquent, mais les justes manifestent de la bonté. Le juste, il va le faire. Il va aller voir la personne et il va tâcher de proposer une réconciliation. C'est une démarche à faire. Proverbe 12, 18. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. Si nous avons sincèrement ce désir de réconciliation, alors Dieu saura nous donner les mots qu'il faut. Le Saint-Esprit nous inspirera et Dieu nous aidera ainsi à panser les plaies comme avec un baume apaisant. N'est-ce pas? Nos paroles, le langage des sages, donc qui sont animés de cette sagesse spirituelle, ce sera comme un baume qui guérit. Et puis, un dernier point, eh bien, marchons ensemble malgré nos différences. Ça paraît pas. Il y a un répétiteur? Oui, mais j'ai dû oublier. Voilà. Marchons ensemble malgré nos différences. C'est coupé en deux, mais c'est pas parce qu'il faut l'appliquer à moitié, hein. Faisons le choix de marcher ensemble. Même si nous avons des opinions différentes sur certains points, dans la mesure où cela n'altère pas les fondements de la foi. Et c'est Paul qui nous en donne l'exemple. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus s'est emparé de moi. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Je relève deux points. C'est Paul, il court vers un but. Et il dit, je cours vers ce but. Et je vais oublier ce qui est derrière, parce que je cherche à aller vers ce but. Donc il y a des choses du passé. Alors lui, ça pouvait être positif, hein, c'est pas forcément négatif. Mais il prend pas en compte ce qu'il a pu faire de bien pour le service de Dieu, et il va aller vers l'avant, il veut continuer. Mais il peut aussi y avoir des choses négatives qui nous ont retardés en chemin, qui nous ont un peu alourdis, qui nous ont fait trébucher. Mais il veut aussi oublier ces choses-là, pas oublier la leçon qu'il a pu apprendre à l'occasion, mais il veut pas rester attaché à ces choses-là, mais il veut aller de l'avant parce qu'il y a un but. C'est sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Et il veut avoir les yeux fixés sur cette rencontre-là. Et aux Philippiens, il me semble que l'apôtre Paul aurait pu leur dire, bon écoutez, maintenant ça suffit, hein, il faut vraiment m'écouter. C'est moi qui suis venu vous apporter l'évangile à Philippe, ça a commencé au bord d'une rivière avec une vendeuse de pourpre. C'est moi qui étais là, vous n'y étiez pas. C'est pas ce qu'il leur a dit. C'est pas du tout ce qu'il leur a dit. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu. Courons tous, et il leur dit, au point où nous en sommes, nous tous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul avait conscience que peut-être ils n'avaient pas tout compris, les Philippiens. Ils savaient qu'ils avaient un avis différent sur certains points, mais il leur dit seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Vivons en plein accord. On va rester unis pour aller dans ce but. Et on va à la fois se réconcilier s'il y a des choses qui doivent être réparées. Mais ce qui va nous permettre de continuer, c'est d'accepter un point de vue différent. Et on va aller ensemble vers ce but-là. Donc courons tous ensemble pour répondre à l'appel de Dieu, sans nous laisser entraver par les tensions que pourraient provoquer nos différents avis. En conclusion, il peut y avoir des différends, des tensions dans l'Église, et il me semble que c'est normal. On pourrait presque dire comme dans toutes les familles, parce qu'on est humain, parce qu'on n'est pas infaillible. Refuser de faire face à ces difficultés, ce ne ferait que empirer la situation, parce que ça les rendrait explosifs. Si on n'aborde pas les points de discussion, si on n'aborde pas les points de différence, bah ça couve, puis un jour ça explose. Mais il ne faut pas en faire un sujet de dispute ou de querelle. Il ne faut rien faire qui puisse permettre à l'ennemi de diviser son Église. Il faut apprendre à les aborder dans un réel bon état d'esprit. Et c'est pour ça que je disais que ben moi j'apprends parce que c'est pas du tout inné, c'est pas du tout facile, mais par la grâce de Dieu, par son esprit, il peut nous aider à le faire. Philippiens 2, ce sera la conclusion. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Que ce soit notre idéal, que nous soyons des serviteurs de Dieu, de son Église. Et ainsi, je crois que l'ennemi ne pourra plus nous utiliser pour créer des disputes et des querelles.